à partir du verset 1. C'est page 753. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi-même aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi, comme à un enfant né hors terme. En effet, je suis le plus petit des apôtres, et je ne mérite même pas d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été sans résultat. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi ou que ce soit eux, voilà le message que nous prêchons et voilà aussi ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vide, et votre foi aussi. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins vis-à-vis de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Or, il ne l'a pas fait si les morts ne ressuscitent pas. En effet, si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Or, si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont aussi perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais en réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue à travers un homme, c'est aussi à travers un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun à son propre rang, Christ en premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir anéanti toute domination, toute autorité et toute puissance. En effet, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsque Dieu dit que tout lui a été soumis, il est évident que c'est à l'exception de celui qui lui a soumis toute chose. Lorsque tout lui aura été soumis, alors le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a soumis toute chose, afin que Dieu soit tout en tous. S'il en était autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Si les morts ne ressuscitent en aucun cas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous, pourquoi affrontons-nous à toute heure le danger? Chaque jour, je risque la mort, aussi vrai, frères et sœurs, que vous faites ma fierté en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans une perspective purement humaine que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, alors mangeons et buvons, puisque demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à votre bon sens comme il convient, et ne péchez pas, car certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Avec quel corps reviennent-ils? Homme dépourvu de bon sens, ce que tu sèmes ne peut reprendre vie que s'il meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas la plante qui poussera, c'est une simple graine, un grain de blé peut-être, ou d'une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il le veut, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Les êtres vivants n'ont pas tous la même nature, mais autre est la nature des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais l'éclat des corps célestes est différent de celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Chaque étoile diffère même en éclat d'une autre étoile. C'est aussi le cas pour la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé faible, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il écrit, Le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier Adam est un esprit qui communique la vie. Mais ce n'est pas le spirituel qui vient en premier, c'est le naturel. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est fait de poussière. Le second homme, le Seigneur, est du ciel. Tel est l'homme terrestre, tels sont aussi les hommes terrestres. Et tel est l'homme céleste, tels seront aussi les hommes célestes. Et de même que nous avons porté l'image de l'homme fait de poussière, nous porterons aussi l'image de celui qui est venu du ciel. Ce que je veux dire, frères et sœurs, c'est que notre nature actuelle ne peut pas hériter du royaume de Dieu, et que ce qui est corruptible n'hérite pas non plus de l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons transformés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité, et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira cette parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ton aiguillon ? Enfer, où est ta victoire ? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat dans le Seigneur. Et jusqu'ici, la parole de Dieu.
Alors prions pour avant de regarder le passage plus en détail ensemble. Père Céleste, merci pour ta parole, merci pour ce que tu as à nous dire ce matin, ce midi, par rapport à la résurrection de Jésus et ce que cela implique pour nous. Nous te prions que tu nous donnes des esprits réceptifs à ta parole et que tu nous donnes des cœurs vraiment qui sont disposés, qui sont ouverts, qui sont humbles. Et qui t'écoute, et qui désire mettre ta parole en pratique aussi. Nous prions tout cela pour la gloire de ton nom. Amen. Des morts qui ressuscitent. Des morts qui reviennent à la vie. Parce que Jésus est revenu à la vie. Je vous pose la question. Franchement, qu'est-ce que vous pensez de ces mots ? C'est grotesque et fantaisiste comme des films de zombies. C'est quelque chose de légendaire que seuls des croyants du premier siècle croyaient. Aujourd'hui, la science explique tout. Peut-être vous êtes plutôt sceptique et vous vous demandez où sont les preuves de la résurrection de Jésus. Et puis certains dans cette salle vont se dire être croyants. Mais quand on en vient à la résurrection des morts, alors là, on a du mal à y croire. Ah oui, c'est vrai, c'est difficile à imaginer. Surtout quand la seule chose qu'on a jamais vécue, c'est notre expérience de notre corps terrestre sur cette terre. Eh bien justement, les gens de Corinthe du premier siècle, et même les croyants, ils avaient des difficultés à y croire aussi. En effet, pour eux, il n'y avait pas de raison de croire que leur corps ressusciterait un jour. En fait, ils préféraient finalement ne pas en avoir de corps dans l'au-delà, parce qu'ils se croyaient déjà vivre l'expérience céleste sur terre. Et tout ce qu'ils attendaient, finalement, c'était que la mort les débarrasse de leur corps, qui était pour eux un obstacle, pour qu'ils puissent vivre la spiritualité sans obstacle. Bien, en réponse à ces difficultés à y croire, Paul dit deux choses, enfin on va dégager, on va voir deux choses principales que Paul dit. Et la première chose qu'il dit, c'est que si Jésus n'est pas ressuscité, nous sommes sans aucune espérance. Et vous pouvez suivre la logique aussi, enfin ces choses dans les bulletins que vous avez reçus au milieu. Si Jésus n'est pas ressuscité, nous sommes sans espérance. Alors, comme vous l'avez constaté, ce chapitre est très très long, il fait 58 versets, et donc on va pas pouvoir constater tous les détails ensemble, mais on va essayer de dégager l'essentiel, et on va vraiment se baser sur l'essentiel. Donc premièrement, si Jésus n'est pas ressuscité, nous sommes sans espérance. Alors le verset 12, et je vous encourage à vérifier avec moi, le verset 12 de ce chapitre nous dit que certains des Corinthiens ne croyaient pas en la résurrection des morts. Mais Paul leur dit clairement au verset 13 et 16 que dire que les morts ne ressuscitent pas revient à dire que Jésus n'est pas ressuscité non plus. Et si Jésus n'est pas ressuscité, alors ils sont sans espérance. Sans espérance dans cette vie-ci, mais aussi pour l'avenir. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce le cas? Parce que verset 2, c'est « S'ils retiennent et croient en la bonne nouvelle de Jésus telle qu'elle leur a été annoncée, qu'ils sont sauvés. » C'est s'ils se confient dans les deux parties de l'évangile qu'ils sont sauvés. Premièrement, verset 3, en la mort de Jésus pour leurs péchés. Et deuxièmement, verset 4, en sa résurrection le troisième jour. Alors on a vu la semaine passée avec Florent, à partir d'Ésaïe 53, pourquoi Jésus avait souffert à la croix. Comme le verset 3 de ce passage nous le dit, on a vu que Jésus était mort selon les Écritures, qu'il avait souffert les souffrances prédites par Dieu dans l'Ancien Testament. Il avait ainsi subi le jugement de Dieu à la place de beaucoup de pécheurs qui se confieraient en lui. Il est en effet mort pour leurs péchés. Alors je vous encourage à écouter ce message qui peut être écouté sur le site de l'Église si vous voulez en savoir plus et si vous n'étiez pas là. Ici, Paul dit que la mort de Jésus et sa résurrection sont étroitement liées. En fait, on ne peut pas être sauvé. On n'a pas d'espérance si on rejette ou si on nie la résurrection de Jésus, même si on croit en sa mort. Pour Paul, c'est tout ou rien. C'est tout l'évangile ou pas d'évangile. Il faut se confier à la fois en la mort de Jésus pour ses péchés, mais aussi en sa résurrection en notre faveur. Sinon, on est sans espérance dans cette vie-ci et pour l'avenir. C'est un peu comme Jacques Mayol, alors c'est son nom, mais c'est un plongeur, le plongeur marin du film Le Grand Bleu. Je sais que c'est assez connu en France, le film Le Grand Bleu, le plongeur qui établit le record du monde de plonger en mer en plongeant dans les profondeurs de l'océan. Alors qu'il plonge dans les profondeurs de la mer, son exploit n'est que valable s'il en ressort de la mer, n'est-ce pas ? S'il revient à la surface, s'il vainc les profondeurs de la mer. Imaginons un cas purement hypothétique que Jacques, que le plongeur, avait la force d'entraîner une ou deux personnes expérimentées derrière lui, un peu comme vous et moi. Enfin, à ce que je sache, il n'y a pas de grands plongeurs marins ici. Donc voilà. Imaginons qu'il prenne avec lui, il entraîne dans la descente et puis dans la remontée aussi. Et on est à bout d'une corde dans une sorte de conteneur. Alors ces personnes seraient associées à l'exploit de Jacques, au record du monde de Jacques, grâce à sa force à lui, n'est-ce pas ? Et parce qu'il s'était confié en sa performance à lui. Ils n'ont rien à dire, c'est pas grâce à eux. Grâce à Jacques, ils auraient eux aussi vaincu les profondeurs de la mer. Mais si Jacques mourait dans l'eau, dans ces profondeurs de la mer, et s'il n'était pas surgi de l'eau, s'il n'avait pas jailli de l'eau, alors il laisserait ses amis sans espérance dans l'eau, n'est-ce pas ? De la même manière, si Jésus n'a pas jailli de la mort, versets 14, 17 et 18, s'il n'a pas jailli de la mort, il n'a pas vaincu les profondeurs du problème du péché, ni la conséquence du péché qu'est la mort. Il n'a pas fait ça en faveur des croyants. Et alors les croyants, ils seraient sans espérance dans cette vie-ci, mais aussi pour leur avenir. Ils font toujours face au jugement de Dieu qu'ils méritent. Le problème de leur péché n'est pas résolu. Même ceux qui sont morts sont perdus. Cela est tragique, à la fois pour les croyants vivants, mais aussi pour les croyants morts. Si tel est le cas, si Jésus n'est pas ressuscité, alors Paul il a parfaitement raison de dire que la foi chrétienne est vide, que la foi chrétienne est vaine. Et encore plus au verset 19, que les croyants sont les plus à plaindre de tous les hommes. L'espérance présente d'être réconcilié aujourd'hui avec Dieu par la croix est vaine. L'espérance future d'être en paix avec Dieu pour l'éternité est vaine. L'espérance de vivre dans un monde parfait où la mort et le péché n'existent plus est vaine. Si tel est le cas, alors tous ceux qui croient en Jésus dans cette salle, y compris moi, nous avons vraiment de quoi rougir de honte. Et tous ceux qui ne croient pas dans cette salle, ils auraient vraiment raison de nous plaindre. Si Jésus n'est pas ressuscité, quelle vie gaspillée, n'est-ce pas ? Des vies construites sur une fausseté, des vies vécues avec beaucoup d'espérance, mais en vain. Notons, soit dit en passant, que ces tragédies ne seraient pas que pour les croyants. En effet, la fin du verset 33 pourrait bien résumer le message de désespoir que notre monde matérialiste athée communique aux hommes. Mangeons et buvons, que chacun vive comme bon lui semble, puisqu'il n'y a pas d'espoir pour demain. Demain, nous mourrons. Mais Paul nous dit que tout cela est le cas seulement si Jésus n'est pas ressuscité. Mais deuxièmement, la deuxième chose qu'il nous dit, c'est comme Jésus est réellement ressuscité, nous avons une espérance certaine et heureuse. En entendant cela, vous me demanderez peut-être, mais comment peux-tu affirmer que Jésus est réellement ressuscité avec tellement d'assurance, Alex? Est-ce que c'est pas un peu présomptueux? Eh bien, ce passage est plein d'éléments qui nous indiquent que Jésus est vraiment ressuscité. Et avant de les passer en revue, il est important de noter que les faits historiques, que ce soit la résurrection de Jésus ou un autre fait historique, eh bien, ils ne peuvent pas être prouvés de manière aussi mathématique qu'une science dure, qu'une science, comment on dit ça, mathématique, ou je ne sais pas exactement comment on dit, mais c'est pas la même chose que, c'est pas scientifique. On peut seulement se baser sur des témoignages humains, qu'ils soient écrits ou oraux. Et alors la question devient, est-ce que les témoignages, ces témoignages qu'on a de la résurrection de Jésus, sont fiables? En fait, la résurrection de Jésus est quelque chose de bien mieux attesté que la plupart des événements historiques de l'histoire de l'humanité, et qu'on tient pourtant pour acquis, parce qu'il y a bien plus de témoignages écrits. Alors tout d'abord, on voit au verset 3 et 4 que non seulement la mort, mais aussi la résurrection de Jésus avait été prédite dans l'Ancien Testament. Alors en entendant ça, peut-être que certains d'entre vous sont sceptiques, mais on peut avoir confiance qu'ils sont bien fiables, parce que plusieurs d'entre eux, notamment les manuscrits de la Mère Morte, bien plusieurs d'entre eux datent d'avant la naissance même de Jésus. Et ils contiennent ces prédictions. Certains contiennent notamment Ésaïe 53 qu'on a vu déjà ce matin et qu'on a vu la semaine passée en détail avec Florent. Ésaïe 53 qui nous parle non seulement de la mort du juste serviteur de Dieu pour des injustes, mais aussi de la résurrection de Jésus. Non seulement cela, mais comme l'apôtre le dit au verset 5 à 10, il y a eu beaucoup de témoins oculaires. Et même s'ils ne sont pas accessibles aujourd'hui même, bien sûr, il y a 20 siècles de différence, même s'ils ne sont pas accessibles aujourd'hui, il était bien au temps des Corinthiens qui avaient du mal à croire à la résurrection. Au verset 6, Paul dit que Jésus est apparu avec son corps ressuscité à plus de 500 frères et sœurs à la fois. Et frères et sœurs dont la plupart étaient encore vivants, et quelques-uns seulement étaient morts. Et il est apparu à 7 personnes, en plus de Céphas ou Pierre, c'est d'autres noms de Pierre, de Jacques, des 12 disciples et de tous les apôtres. Il les invitait ainsi à aller vérifier les faits auprès des témoins oculaires s'ils doutaient de la résurrection de Jésus. Peut-être que vous pourriez, vous diriez qu'ils auraient bien pu avoir une hallucination. Mais médicalement, c'est impossible qu'un groupe de personnes ait eu la même hallucination en même temps. Et que dire de l'argument que ce n'était que des croyants finalement qui ont témoigné de cela, et ils auraient bien pu inventer une histoire et la faire croire à des gens crédules. Mais Paul dit lui-même qu'il a vu Jésus ressuscité après tous ses témoins. Et cela est significatif parce que c'est alors qu'il persécutait les croyants. C'est alors qu'il persécutait les croyants qu'il a vu ce Christ ressuscité. C'est ce qu'on lit au verset 8 à 10. Et on peut lire plus à ce propos en acte 9, pour ceux qui veulent lire peut-être à la maison. Notons aussi un dernier argument qui atteste en faveur de la résurrection de Jésus. Au verset 30 à 32, Paul dit qu'il ne risquerait certainement pas sa vie face à ses persécuteurs s'il n'était pas sûr que le Christ était bien ressuscité, et s'il n'était pas sûr que les morts allaient ressusciter aussi. Il faut en effet être fou pour accepter d'affronter des dangers à toute heure à cause de l'Évangile. Et Paul montre bien par son témoignage et ses écrits qu'il n'est pas du tout fou. Au contraire, il est très intelligent, il est cohérent, il est honnête et il est plein d'amour. Parce qu'il risque sa vie pour que des personnes puissent entendre la bonne nouvelle de la mort et de la résurrection de Jésus. Pour que eux aussi puissent avoir une espérance certaine et heureuse, aujourd'hui et dans l'avenir. Ainsi, comme il l'affirme au verset 15, il n'est pas un faux témoin de Dieu. Non, il est un vrai témoin de Dieu. Et il est digne de confiance. Et en plus, si on y pense, la résurrection du Fils de Dieu, de l'homme qui est Dieu, bien, sa résurrection est tout à fait ce à quoi on s'attendrait s'il était mort, n'est-ce pas? Sinon, il ne serait pas Dieu. Donc oui, il y a vraiment de bonnes raisons de croire que Jésus est réellement ressuscité. Et cette réalité a des conséquences profondes pour ceux qui se confient en elle. Elle nous donne une espérance certaine et heureuse, d'une part, dans la vie présente, dans la vie actuelle, mais aussi pour l'avenir. D'une part, vous voyez au verset 17, Paul dit de manière négative que si Jésus n'est pas ressuscité, alors on est toujours dans nos péchés. Ou dit de manière positive, si on se confie en Jésus, c'est parce qu'il est ressuscité qu'on n'est plus dans nos péchés, quelles que soient les profondeurs de nos péchés. D'autre part, tout comme la victoire du plongeur, qui sort de la mer, bien, tout comme cette victoire donne une espérance certaine de la victoire pour ceux qui sont encore dans l'eau au bout de la corde, bien la résurrection de Jésus qui précède, la résurrection de ceux qui se confient en lui et qui sont toujours sur cette terre. Même ceux qui sont morts, comme le dit le verset 20. De plus, verset 21, alors que la mort était venue par la rébellion d'un homme, d'Adam. Mort qui s'était étendue à tous les hommes. Versets 22 et 23. C'est par un homme, Jésus, que les croyants revivront à la fin des temps. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui a vaincu la mort. En effet, verset 26, c'est à la fin des temps que le dernier ennemi, la mort, sera anéanti. Alors au verset 20, Christ est décrit littéralement comme étant les prémices, comme étant le premier, comme étant les prémices en fait, littéralement. C'est-à-dire les premiers fruits d'un arbre. Alors en principe, c'est ce qu'on va bientôt voir, vu que le printemps est censé arriver, ou on le voit arriver, normalement on va voir les premiers fruits. Et quand on voit les premiers fruits d'un arbre, on sait avec assurance que les fruits qui suivent vont bientôt arriver, n'est-ce pas ? Eh bien, il en est de même pour les croyants. Parce que Jésus est réellement ressuscité. On peut avoir la certitude que nous aussi, on va ressusciter quand il reviendra, si on est mort, ou on sera changé si on n'est pas mort. Mais quelqu'un dira, comme celui du verset 35, si les morts ressuscitent, comment reviennent-ils à la vie ? Avec quel corps ressuscitent-ils ? Mais on trouve la réponse dans les versets 36 et suivants. Et cette réponse nous permet encore plus de comprendre que la résurrection de Jésus nous donne une espérance certaine et heureuse. Paul dit que, comme une petite graine, doit mourir en terre avant de prendre vie et de devenir un grand arbre, splendide, grand, robuste, eh bien notre corps terrestre, ne peut prendre pleinement vie que lors de la résurrection, après la mort. Et comme ce qui est semé n'est pas l'arbre à venir, mais une simple graine à laquelle Dieu donnera un corps, celui de l'arbre, eh bien notre corps terrestre n'est pas le corps céleste que Dieu donnera aux croyants lors de la résurrection. Et comme la gloire de l'arbre, ce bel arbre bien grand, bien fort, comme sa gloire est bien plus impressionnante que celle d'une petite graine, eh bien la gloire des corps ressuscités des croyants est incomparable par rapport à la gloire de leur corps terrestre. Justement, versets 45 à 49. Comme nous avons porté l'image de l'homme terrestre, d'Adam, qui est en quelque sorte la graine, de même les croyants porteront l'image de celui qui donne la vie et qui est ressuscité avec un corps céleste glorieux. Peut-être certains d'entre nous sont un peu intrigués par rapport à la nature de ce corps céleste. Eh bien, même si la différence sera énorme, il y aura quand même une continuité entre ces deux corps. En effet, le pommier vient d'une graine de pommier, et pas d'une graine d'avocatier. On sait qu'on se reconnaîtra aussi parce que Jésus avait été reconnu par ses disciples après sa résurrection. On sait aussi qu'on sera toujours humain et des êtres physiques palpables. Et donc pas des esprits volants, parce que les disciples de Jésus l'ont touché après sa résurrection. Et ils ont mangé avec lui. Donc on mangera vraisemblablement aussi. Alors malgré ces similarités, cette continuité, nos corps seront quand même bien bien différents. Alors Jacques, notre plongeur, doit porter une combinaison adaptée pour l'eau. Mais quand il sort de l'eau, il doit se changer, n'est-ce pas, en quelque chose de plus adapté pour le milieu terrestre. C'est tout à fait normal. De la même manière, le corps ressuscité du croyant sera adapté à la vie céleste, glorieuse, parfaite et éternelle. Est-ce que vous voyez les différences entre les deux corps du verset 42 au verset 44 et au verset 53? Le corps terrestre est semé corruptible. Ou méprisable. Il est semé, corruptible ou périssable. Il est semé méprisable. Il est semé faible naturel, il est semé mortel. Nous le connaissons si bien sous cette forme, n'est-ce pas ? Que l'on soit âgé, que l'on soit malade, ou même si on est en bonne santé, on expérimente tous, à un moment ou à un autre, toutes les limites de notre corps terrestre. Mais que dire du futur corps céleste des croyants ? Toujours ces versets 42 à 44 et 53. Il sera incorruptible ou impérissable. Il ne se dégradera plus. Il ne souffrira plus. Il sera glorieux. Il reflétera la gloire de Dieu lui-même. Et il ne péchera plus. On ne péchera plus. Il sera plein de force, rempli de la puissance vivifiante de Jésus. Il ne se fatiguera plus au travail et il sera plus jamais malade. Il sera céleste, adapté à une vie éternelle avec Dieu. Et il sera immortel. Quand Jésus reviendra, la mort sera engloutie dans sa victoire. Fin du verset 54. Nous pourrons entonner tous avec Paul. Nous pouvons dès aujourd'hui entonner tous avec Paul. Mort, où est ton aiguillon ? Mort, où est ta victoire ? Et ce changement aura lieu quand Jésus reviendra, que l'on soit mort ou toujours vivant. C'est ce que nous disent les versets 52 et 53. Quand on y pense, cela nous donne vraiment envie d'y être, n'est-ce pas ? C'est vraiment tout ce après quoi on aspire sur cette terre. Une vie pleine de joie où il n'y a plus de mal et où on ne souffre plus du mal. En fait, c'est ça la vraie vie pour laquelle Dieu nous a créés. Et c'est vrai que d'une certaine manière, en y pensant, ça a l'air d'être trop beau pour être vrai. Mais puis-je vous encourager à ne pas la rejeter juste pour cette raison, parce que c'est trop beau. Dieu a créé ce monde merveilleux. Mais il a été corrompu par notre péché. Et par Jésus, il doit faire toute chose nouvelle. Et toute chose bien plus belle. Cela n'est que possible grâce à la mort et à la résurrection de Jésus. Si vous réalisez votre besoin de la mort de Jésus à votre place pour vos péchés, et si ce matin vous réalisez que votre seul espoir pour l'avenir se trouve dans la résurrection de Jésus, alors tournez-vous vers lui. Demandez pardon à Dieu de votre rébellion et confiez-vous en sa mort et sa résurrection pour avoir la vraie vie. Alors si vous n'êtes pas encore convaincu que Jésus soit réellement mort et ressuscité, j'aimerais vous demander de quel autre élément avez-vous besoin ? Il y a beaucoup de prédictions dans l'Ancien Testament, dans Ésaïe 53 notamment. Pourquoi ne pas lire ces prédictions ? Il y a aussi tellement de témoignages fidèles dans le Nouveau. Vérifiez ces textes par vous-même. Il y a tellement en jeu. Et ça coûte tellement peu de juste prendre du temps pour les lire. Alors si vous êtes intéressé, il y a aussi des livres qui pourraient répondre à certaines de vos questions par rapport à peut-être à la fiabilité de la Bible ou à d'autres questions. Alors là, il y a Jésus, la parole est à la défense. Et puis il y a aussi la raison est pour Dieu. Donc celui-ci, la raison est pour Dieu, est disponible. Il peut être emprunté de l'Église. Celui-ci, c'est le mien, mais je peux vous le prêter sans aucun problème. Je sais aussi qu'en tant que croyant qui souffre d'une manière ou d'une autre dans cette vie, c'est difficile de lever ses yeux de sa situation, parfois. Et peut-être vous êtes accablé, vous êtes usé, et les autres ne peuvent pas vous comprendre. Mais sachez que Jésus a été frappé, il a été blessé, il a été usé, il a été accablé dans son corps terrestre. Comme le corps de Jésus l'était à la croix, peut-être le vôtre est comme un arbre dévêtu en plein hiver, languissant après la chaleur vivifiante du printemps. Eh bien, ce passage nous dit que le printemps, l'été même est à notre porte. Et Dieu qui sera notre soleil nous transformera en un arbre glorieux des simples graines que nous sommes. Peut-être vous vous sentez en pleine forme, mais sachez que votre corps n'est qu'une simple graine. Vous n'êtes pas encore un arbre. Et seul Jésus peut vous donner le corps dont vous aurez besoin pour vivre l'éternité avec lui, par sa résurrection. Ne fixez pas vos yeux sur votre graine, sur la graine, mais fixez vos yeux sur Jésus-Christ, le ressuscité. En pensant à des proches qui sont décédés alors qu'ils se confiaient en Jésus, bien que ceci nous manque, ce passage change notre perspective par rapport à la mort. Et il nous remplit d'une joie, vraiment grande joie et d'une espérance certaine pour eux. On se rappelle que notre soleil est aussi le leur. Et nous savons qu'ils connaîtront eux aussi la transformation glorieuse dont Dieu nous parle dans ce passage. Enfin, puisque tout cela est vrai, nous sommes appelés à vivre aujourd'hui à la lumière de demain. Au verset 58, le verset qui conclut notre passage, le chapitre, Paul encourage les croyants à être fermes et inébranlables dans la foi. Alors faisons attention aux sites internet qui se disent être chrétiens. Soyons prudents et sur nos gardes. Et il faut se méfier et il faut même être prêt à corriger toute personne qui nierait l'un ou l'autre élément essentiel de l'évangile. Par exemple, la mort de Jésus, la mort substitutive de Jésus pour nous, ou la résurrection de Jésus. Dans ce verset, les croyants sont aussi, dans ce verset 58, les croyants sont aussi appelés à travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que leur travail n'est pas sans résultat, qu'il n'est pas en vain, qu'il n'est pas vain dans le Seigneur. On n'a pas le temps de regarder les éléments de toute la lettre maintenant, mais on constate en lisant toute la lettre que ce que Paul veut dire par l'œuvre du Seigneur et le travail dans le Seigneur, c'est l'œuvre de l'évangélisation. Ainsi, à cause de la bonne nouvelle de la résurrection des morts basée sur la résurrection de Jésus, aucun effort pour partager la bonne nouvelle n'est vain. Si vous prenez du temps pour lire la Bible avec vos enfants après le travail, alors que vous êtes bien fatigué et qu'ils ne semblent pas très attentifs, cela n'est pas en vain. Il en va de leur future résurrection. Quand vous préparez l'école du dimanche, une étude ou un événement auquel seulement quelques personnes participent semaine après semaine, vous êtes peut-être découragé. Eh bien, cela n'est pas en vain. Il en va de leur future résurrection. Peut-être nous pensons déjà faire beaucoup de choses, mais nous sommes ici invités à abonder dans ce travail. Par exemple, pourquoi ne pas libérer du temps à midi pour manger avec des collègues? Ou pourquoi ne pas les inviter à la pause du midi pour qu'ils puissent entendre l'évangile? Alors qu'on a passé beaucoup de soirées en famille, pourquoi ne pas inviter des voisins à un repas ou peut-être à une bonne franquette à la maison? Une bonne franquette, c'est un événement qu'on peut organiser avec l'église pour faire découvrir l'évangile. Pourquoi pas organiser ça un vendredi soir ou un samedi soir? Ou pourquoi pas inviter des vieux amis au groupe des seniors? Et ceci en vue de témoigner de Jésus, de sa mort et sa résurrection. Tout ceci en vaut la peine à cause de l'espérance certaine que nous avons grâce à la mort et la résurrection de Jésus. Verset 57. Pour terminer, que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Prions pour terminer. Merci Seigneur pour la bonne nouvelle de la résurrection du Christ. Merci pour cette espérance certaine que nous avons grâce à sa mort et sa résurrection. Nous te prions que tu nous donnes de nous confier plus en cette bonne nouvelle. Père, nous te prions que tu nous donnes le courage de continuer à travailler dans ton œuvre, de savoir que c'est pas en vain, donne-nous d'abonder dans ton œuvre, en sachant que, oui, la résurrection des morts est à venir, que la vie pleine et abondante et la vie éternelle est à venir, et c'est seulement par la mort et la résurrection qu'on a cette espérance certaine. Fortifie-nous et aide-nous aussi à grandir en Christ. Amen.